Allez, allez, on se dépêche, allez!
Vie étudiante et associative.
Hisse la grande voile!
Politique, société.
Mais y'a pas de voile, abruti!
Culture.
Immersion dans 10 secondes!
Et même du sport.
Take that out. Four forward.
Tout le monde est à son poste ?
Du lundi au jeudi, 19h-20h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'info de Radio Campus Angers.
Il est de plus en plus dur de faire la fête dehors à Angers. Invité du sous-marin mardi dernier, Florent Santino, l'adjoint jeunesse de la ville d'Angers, nous a parlé d'un projet qui n'est pas entré dans l'oreille d'un sourd. Déjà lors des municipales, le candidat Christophe Béchu en avait jeté les prémices. Il nous présentait à l'époque son idée d'un parc récréatif pour les étudiants souhaitant faire la fête tard le soir. Installé près d'une mine, une zone industrielle désaffectée, cet enclos du fun aurait permis de réceptionner aux mêmes endroits les plus bruyants d'entre nous. Un moyen simple et efficace d'améliorer la cohabitation difficile des jeunes et des riverains en supprimant toute notion de cohabitation. Depuis son élection au poste de maire, M. Béchu n'avait pas remis son idée sur la table, ce n'était pas une priorité, mais voilà donc son adjoint, Florent Santino, qui remet ça cette fois, ce n'est pas un parc, il y aura bien 4 murs et un toit, une véritable salle municipale destinée à accueillir les soirées étudiantes, notamment celles organisées par les BDE. Un beau geste au premier abord, mais si on y réfléchit bien et qu'on lit les petites lignes en bas de la page, ça se complique, la salle devra être rendue entièrement rangée à 2h du matin, et il est fort à parier, même si je n'en sais rien encore puisque ce n'est que un projet. Mais il est fort à parier qu'un service de sécurité ne sera pas loin. Même si M. Santino ne nous en a pas dit plus et qu'un boycott est tout à fait envisageable, puisque personne n'est forcé à y aller, ce projet fait doucement sourire et éloigne donc encore plus les festivités de la rue. Plus besoin pour les forces de l'ordre, dont le service de nuit a été doublé depuis la rentrée, d'aller chercher bien loin pour surveiller nos débordements, dont il est si difficile de se débarrasser. Si, à l'image de la future édition des Accroche-Cœurs, ce nouveau lieu penche vers le végétal à foison, on peut déjà espérer qu'il sente le sapin.
19h-20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Bonsoir à tous et bienvenue à bord du sous-marin. C'est n'est pas la douce voix de Tiffen qui résonne dans vos oreilles, puisque Tiffen nous prépare un plateau radio en direct de l'ESEO qui parle de la recherche qui sera diffusée demain à la même heure à 19h. On va recevoir donc dans une seconde partie d'émission Holster Rock, l'association métal qui organise demain sa première soirée au Terreau Coco. Thomas va nous livrer son regard sur le monde extérieur avec une nouvelle rubrique dans les eaux internationales qui va nous amener à Hong Kong. Mais d'abord, mon cher Manu.
On savait déjà que la femme était l'avenir de l'homme. La femme serait aussi l'avenir de la bière.
J'ai testé pour vous la bière sans alcool.
C'est quoi ce truc là?
C'est de la bière.
Sans alcool, eh ben, peut-être il y en a quand même un petit peu de l'alcool dans le...
Elle n'est pas sans alcool, mais c'est bien de la bière que fabriquent Mathieu Sabic et Vincent Pellerin, 24 ans. Bonsoir.
Bonsoir.
Depuis mai dernier, vous avez lancé Dumnag Beers au Ponce, une brasserie artisanale. Avant de se lancer dans cette petite entreprise, j'imagine que vous avez déjà dû partager quelques bières ensemble, messieurs. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés?
On est des copains de lycée, en fait, tout simplement. On s'est rencontrés première terminale au Ponce. Et puis, on commençait à boire des bières comme ça. Il y a eu des ouvertures de magasins, plus ou moins au courant de cette année-là à Angers.
Par curiosité, à quel âge la première bière?
À la majorité.
À la majorité. Ouais. Bah oui, comme tout le monde.
Comme tout le monde.
Et vous avez ensuite fait des études de commerce international et de gastronomie. C'est cette formation qui vous a aidé à vous lancer. Est-ce que pendant ces formations-là, vous avez eu des pistes et déjà l'idée de monter une brasserie?
Plus par les stages que par les études en elles-mêmes, en fait. Je pense que, c'est pareil à mon avis pour tout, mais les stages, ils nous ont permis de mettre un pied dedans. Moi, j'ai fait un stage à Saveur Bière, une entreprise qui vend de la bière en ligne. Et Mathieu, c'est pareil.
J'ai fait de la gestion de cave à Paris. Et ça m'a permis aussi de me rapprocher de brasseurs. J'étais à côté d'une cave qui était super bien à Paris. Et vous pouvez rencontrer des gens du secteur d'activité. C'est toujours intéressant d'avoir ce genre de point
de vue. De se confronter à la réalité.
Oui, tout à fait. Ouais.
Et à quel moment vous vous êtes dit, nous on va monter notre propre brasserie? Est-ce que c'était en réaction aussi à un manque ou à peut-être une aversion de la bière un peu plus commerciale, vendue en tout cas dans les grandes surfaces?
Pas un manque, parce qu'il y a pas mal de brasseries dans le département déjà, mais surtout, ouais, c'est parti d'une passion, quoi. Au fur et à mesure, en fait, on a commencé en brassant en amateur, et au fur et à mesure, ça nous a amené à imaginer le projet un peu plus gros, quoi.
Et le nom de votre bière, c'est la Dumnach Beer, je le prononce bien, ça va ?
Ouais, la Dumnach Beer.
La Dumnach Beer, avec l'accent. C'est une référence à un héros gaulois dont la cité fut les Ponce, d'où vous êtes originaire. Voilà. Et sur le logo, on retrouve justement ce valeureux guerrier. Est-ce que vous êtes passionné d'histoire, fan d'Astérix ou tout simplement passionné par votre ville ?
On est surtout à 50 mètres du pont du Minacus, donc c'était un bon petit clin d'œil.
C'était évident. Et on en joue, il existe déjà des brasseurs artisanaux, mais si on va, c'est vrai qu'on connaît surtout la région pour les vins d'Anjou. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'une terre d'amateurs de bière, de buveurs de bière, mais au même titre que les vins ?
Tout à fait, ouais. Moi, je pense qu'il y a de la place pour un certain nombre d'alcools différemment, et la culture viticole n'est pas tout à fait la culture brassicole. Moi, je pense qu'il y a de la place pour des profils complémentaires.
Il y a de la place. Et la vôtre de bière, la Dumnach Beer, où est-ce qu'on peut la trouver à Angers ? Où est-ce qu'on peut la déguster ?
Bah, le plus simple, c'est de passer à la brasserie. Comme ça, vous rencontrez les brasseurs, qui sont sympas.
C'est comme le boire du lait au cul de la vache.
Exactement. Et sinon, on est sur une dizaine de points de vente sur Angers. Alors, je ne vais pas tous les citer, quelques-uns. On est en bar, on est au Welsh, qui est en centre-ville, qui est le meilleur bar à bière d'Angers, je pense. Sinon, on est dans certaines caves, vraiment grosses caves à bière, comme la Servoiserie, le Hangar à Mousse. On est dans des caves à vin, type en des caves.
Intercave, qui est au boulevard Le Doyenné aussi.
Ouais, qui est, pareil, une excellente cave. On est à Why Not, enfin, on est dans pas mal de coins sur Angers même.
Mathieu Sabic et Vincent Pellerin, la Dumnach Beer, c'est pas seulement une bière, hein, c'est plusieurs sortes de bières avec des noms tout à fait folkloriques aussi. Qu'est-ce qui différencie par exemple la White Llama de la Flying Monk ?
Tout. C'est pas du tout les mêmes bières. On a voulu un nom qui soit pas du tout en lien avec la bière, en fait. Si vous voulez, la White Llama, c'est une bière blanche, mais on peut le savoir, c'est écrit sur l'étiquette, mais sinon on peut le savoir qu'en la goûtant. Et en fait, c'est vraiment le style de bière qui diffère d'une bière à une autre, quoi.
Mais en leur collant ces appellations anglophones, est-ce que vous avez une volonté peut-être d'international, de commerce international, ou c'est juste pour le fun ?
Je dirais que c'est plutôt pour le fun que pour la volonté d'exporter, hein. Je pense qu'on n'en est pas à ce stade-là à l'heure actuelle. Puis on cherchait des noms assez sympas, hein, tout simplement des choses qui nous parlaient, nous, et ça correspond, en fait, pour resituer les choses dans la bière. Il y a eu un glissement, les traditions sont restées en Belgique et en Allemagne. Mais de plus en plus, on assiste à un renouvellement du paysage brassicole en Amérique du Nord et en Europe du Nord, et c'est un monde qui est très anglicisé. Je pense que c'est quelque chose auquel on a essayé de rendre hommage en quelque sorte. Quoi.
Oui, c'est vrai.
On a un petit peu voulu dépoussiérer quand même. En France, on est beaucoup, même dans la bière en général, sur le côté très traditionnel, quasiment vieille France des fois. On est à notre petite échelle, on a voulu essayer de dépoussiérer un peu le truc, quoi, faire quelque
en
chose
utilisant
de,
un gaulois.
De marrant. Bien sûr, mais même le logo, à partir de ça, le nom est anglais, le logo pareil est un peu typé sur les logos d'équipes de foot américaines.
On va revenir sur la manière dont vous fabriquez cette bière et la manière dont vous financez votre petite entreprise juste après ça.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Vincent Pellerin et Mathieu Sabic, on a vu comment est née l'idée de monter une brasserie, comment vous ne manquez pas de créativité avec votre produit. Mais avant que tout ça soit possible, il a sûrement été question de financement. Comment on s'y prend pour lancer sa petite entreprise ?
Tout à fait, ouais. Ben nous, on a eu la chance en fait, de pouvoir investir la cave d'un parent. Tout simplement, on l'a rénovée et du coup, c'était une pression financière en moins. Et à cela s'ajoutait le fait qu'on a pu aussi se passer d'un emprunt bancaire. C'est-à-dire que concrètement, on a pu emprunter auprès des proches de la famille, on a cassé notre tirelire aussi, et puis on a mis nos économies dedans.
Il n'y a pas eu d'emprunt bancaire, vous êtes endetté auprès de votre famille. C'est plus convivial, c'est plus ça. Sympa. Est-ce qu'il a fallu quand même faire des compromis, ou est-ce que c'était OK de voir les choses en grand ? Je veux dire, il n'y a rien où vous vous êtes dit, bon, finalement, ça, on ne peut pas le faire.
C'est un gros compromis, en fait. Pour brasser de la bière, on peut s'équiper... Bon, j'en sais rien, mais je pense qu'on peut s'équiper à partir des cuves de 50 litres jusqu'à des cuves de 1000 litres. Donc, concrètement, on a un investissement sur vraiment tout ce qui est cuverie, sans rentrer dans les détails, mais qui va être en tout et pour tout à 5000 euros. Peut y avoir pour le même équipement, mais en plus grand, on peut avoir des choses à 60 000 euros, 70 000 euros.
Mais c'est peut-être envisageable pour plus tard ou
Bien sûr. Oui. Ouais.
Et depuis justement le lancement de la brasserie en mai dernier, quelle est la croissance pour la Dumnac Beer ? Est-ce que ça fonctionne bien ? Est-ce que vous êtes satisfait pour l'instant ?
Oui, tout à fait. Ouais. On est assez content de notre lancement. On a une progression du chiffre d'affaires tous les mois actuellement, malgré le fait que bon, c'est l'arrière-saison et puis maintenant c'est plus l'été, la bière étant un produit quand même très estival. Et ouais, on est quand même très content de notre lancement. Ouais.
Pas de bière de Noël de prévu ?
Oh, si.
Si.
Bière de Noël, une bière brune qui sera à peu près à 10 degrés, un petit peu épicée. Quelque chose de sympa. Je pense c'est en train de fermenter encore. Là, on ne l'a même pas mise en bouteille. Donc, ça va venir.
Mais alors, attention. Hein, l'abus d'alcool, on le sait. Et on nous le répète, et je vais le répéter, est dangereux pour la santé. Les médias savent bien nous rappeler régulièrement que les jeunes, aujourd'hui, sont en pleine hyperalcoolisation. Le fameux binge drinking, qui bien sûr touche aussi les vieux. Hein, et ce, depuis la nuit des temps, il suffit d'entrer dans un PMU. Quel est votre point de vue sur la question ? En tant que fournisseur, quel est votre regard sur les attitudes de consommation ? Est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en compte et auquel vous êtes sensible ?
Tout à fait. On est sur un produit de spécialité quand même. C'est-à-dire que déjà d'une manière générale, les gens qui vont vouloir, picoler, mais vraiment pour se rendre ivre, je pense pas qu'ils le fassent avec de la bière artisanale qui va coûter 2,50€ la bière. Enfin, de mon point de vue.
Vous visez plus un public. D'amateurs ou de connaisseurs en tout cas, ou des publics qui sont pas sur vraiment de l'alcoolisme, hein, il faut le dire.
On vise un public plus sensibilisé, je pense, aux notions de gastronomie en général. Et je pense pas que c'est des problématiques auxquelles on a été confronté actuellement en tout cas.
Mais vous avez des obligations, j'imagine, hein, d'affichage.
Tout à fait, oui. Bien sûr.
Alors, on va s'arrêter maintenant sur la fabrication, de manière à ce que tout le monde comprenne. Moi, j'ai eu 5 à mon bac scientifique. Comment on s'y prend pour fabriquer de la bière ? Et surtout, comment vous y prenez pour fabriquer votre bière et pour qu'elle soit bonne ?
Déjà, je vais commencer en disant que moi et Mathieu, on a aussi eu 5 à notre bac scientifique.
Bon, ça me rassure. Non, parce que j'aimerais monter ma brasserie aussi, mais on en parlera en off. Mais pour les auditeurs qui nous écoutent maintenant, du coup, qu'on fait comment ?
Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que ça pourrait durer très longtemps. Mais concrètement, on a une base qui est le malt d'orge. Même si on rajoute parfois un peu de blé, mais en gros, c'est souvent du malt d'orge qu'on va concasser puis mélanger avec de l'eau. Donc on va...
Voilà. De là, on le touille pour favoriser la libération des sucres et l'activation des enzymes. En fait, c'est ça vraiment qu'on appelle le brassage à proprement parler. S'ensuit un processus de rinçage avec de l'eau, suivi d'une phase d'ébullition où on stérilise le moût. Et c'est à cette étape-là qu'on rajoutera le houblon. En fait, c'est ce qui va donner à la fois le côté amer et le côté fruité. Après ça, on refroidit, on rajoute les levures, et c'est ça qui va créer l'alcool à partir des sucres qu'on a déjà libérés précédemment, en fait.
C'est presque comme du pain, finalement.
Ouais, bien sûr, c'est un produit fermenté.
Ça prend combien de temps pour fabriquer c'est le contenu d'une bière de 25 centilitres ?
Ça dépend de la bière. Les plus légères, type bière blanche, ou en général les bières houblonnées, pareil, qui vont être assez légères, on est sur un mois et demi, deux mois, entre le moment où on brasse et le moment où on peut la boire. Sur les bières brunes, la note est un peu plus forte en degré d'alcool, elle est à 9 degrés. Il faut beaucoup plus de maturation, on est plutôt sur 3 mois à peu près.
C'est une formule qui est infaillible ou parfois ça vous arrive d'avoir une mauvaise production que vous êtes obligé de jeter ou en tout cas de garder dans le frigo ?
Il peut y avoir des ratés, en fait. L'hygiène, c'est une contrainte très importante. Pas en termes sanitaires, il n'y a aucun risque pour la santé avec une bière infectée, mais tout simplement en matière de contrôle qualité, on aura une bière qui aura une acidité pas du tout naturelle, totalement excessive. Il peut y avoir d'autres soucis. La bière peut mousser au moment où on l'ouvre. Et donc, nous, le produit nous le rappelle immédiatement s'il y a un manquement quelconque à l'hygiène, dans tous les cas.
Il y a un moment de goûtage où vous-même, vous êtes forcé à chaque fois de goûter, forcé c'est un grand mot, mais de goûter la nouvelle production à chaque fois.
Ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est qu'on travaille sur des petites cuves, donc nous, forcément, on brasse souvent, et par rapport à ça, on est obligé de goûter à chaque fois, voir si la cuvée est conforme à ce que nous, on souhaitait en faire, s'il n'y a pas de variation entre les différentes cuvées, on est obligé de goûter régulièrement.
Dumnac Beer, c'est une brasserie où vous êtes deux pour le moment. Est-ce que à l'avenir, vous envisagez, pourquoi pas, d'avoir d'autres personnes autour de vous? Est-ce que ça va être suffisant d'être deux pour faire tourner cette entreprise?
Actuellement, ça l'est. En fonction de l'évolution de l'entreprise, on pourra être amené à s'étendre. Mais je pense que déjà, en termes de matériel, il s'agirait, à mon avis, plus d'automatiser notre matériel à l'heure actuelle que forcément d'augmenter les effectifs. Ou alors, ça viendrait vraiment pour une étape ultérieure où on serait devenu un gros groupe, quoi.
Ouais, mais vous restez ambitieux quand même.
Bien sûr.
Il paraît qu'il existe désormais des kits pour réaliser sa propre bière. J'ai pas essayé, mais il paraît. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce que vous avez essayé? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce bien sérieux?
Tout le monde commence comme ça, en fait. Hein. Enfin, pas tout le monde, mais en général, quand on commence à brasser de la bière, on part à partir d'un kit. C'est une espèce de boîte comme une conserve, si vous voulez, avec une soupe, quoi, un peu dedans.
Comme tous les magiciens qui commencent avec le kit de Jérôme Ajax.
C'est ça, et en fait, on le mélange à de l'eau, et en gros, c'est idéal pour débuter, parce que ça permet de se préoccuper que de la phase de fermentation, et donc de pas avoir... En fait, il y a énormément de facteurs à gérer quand on brasse, et ça permet de se libérer de ces facteurs pour se concentrer sur la fermentation. C'est une bonne mise en bouche, je dirais, pour commencer.
Alors, un auditeur qui se dit « Bon, je vais aller acheter mon kit pour fabriquer ma bière, pour devenir un jour brasseur, ok, qu'est-ce qu'il faut faire en plus, justement, pour devenir brasseur ?» Vous nous avez parlé de votre formation, mais est-ce qu'il y a, je ne sais pas, quelque chose de plus précis, une formation plus précise pour devenir brasseur ?
Il existe quelques formations en France, elles sont essentiellement d'ordre privé, auxquelles s'ajoute un diplôme universitaire qui doit être à La Rochelle. Mais en fait, franchement, c'est quand même essentiellement un milieu d'autodidacte. Mm. Voilà, on a pratiquement tous commencé en cuisine... Pour l'essentiel d'entre nous. Ouais.
De toute façon, et je vais finir là-dessus, une bonne bière, ça se reconnaît. Des conseils pour avoir le nez fin, parce que on n'a pas forcément l'habitude des bières artisanales, on ne va pas forcément savoir faire la différence, c'est reconnaître une bonne bière. Est-ce qu'il y a des signes qui ne trompent pas? Des choses à savoir?
Je pense que le plus important, c'est de tester. Hein. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ça me paraît compliqué, il y a tellement de diversité, il y a 600 microbrasseries en France. C'est il y a de tout, quoi, donc c'est que en vraiment
oui, voilà, puis en suivant au bouche à oreille aussi, je pense que ça peut on reconnaît une bonne bière à ça aussi, hein, quand même.
La Dumnac Beers, en tout cas, on peut la trouver sur votre site internet, on mettra le lien sur notre propre site internet, et puis on la retrouve dans quelques adresses à Angers que vous nous avez citées tout à l'heure. Merci Vincent Pellerin et Mathieu Sabic.
Merci à vous.
Pour l'instant, sur Radio Campus Angers, on écoute Wizard Staff avec c'est le nom du morceau et le groupe c'est Vampire. We'll be right back.
20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Et tout de suite, on retrouve Thomas. Salut Thomas.
Salut.
Pour commencer l'année, on va déjà tout bazarder. Aujourd'hui, Thomas vous embarque dans les eaux internationales direction Hong Kong et son mouvement des étudiants pour la démocratie.
Eh oui Antoine, couteau entre les dents et drapeau rouge sur l'épaule, je vous embarque à la manif. On va essayer de comprendre que va devenir le mouvement étudiant de Hong Kong, la révolution des parapluies. Hong Kong, c'est une cité indépendante du pouvoir chinois, sur le plan économique et politique suite à la signature d'un accord en 1997. Depuis ce moment-là, les 7 millions de Hongkongais cultivent leurs différences. Troisième place financière au monde, PIB par habitant le plus élevé de la Chine continentale, le régime politique de Hong Kong fonctionne plus démocratiquement. Pourtant, cela fait plus d'un mois que des groupes étudiants se mobilisent à Hong Kong. Cette mobilisation fait suite à la décision du pouvoir central chinois de valider les candidats qui se présenteront à l'élection au poste de gouverneur de la région.
Mais alors, ils doivent pas aller beaucoup en cours s'ils sont dans la rue depuis plus d'un mois.
En effet, le mouvement court depuis déjà quelques temps, mais la couverture médiatique internationale a débuté le 27 septembre, date de la création du hashtag Umbrella Revolution sur Twitter. Cette nuit-là, le pouvoir central avait décidé de disperser les manifestants avec des gaz lacrymogènes, leur seule arme de défense massive étant alors de simples parapluies. Oui, parce qu'il pleut beaucoup là-bas. Hong Kong, c'est un peu la Bretagne chinoise, si l'on veut. Bon, depuis, les pourparlers entre le pouvoir et les manifestants sont rompus.
Donc on est un peu au point mort, quoi.
On peut dire ça, mais c'est en train de changer rapidement, puisque d'autres forces entrent en jeu pour essayer de casser le mouvement. D'un caractère plutôt bon enfant, les événements vont prendre une tournure plus caractéristique des révoltes civiles. En Chine, depuis l'arrivée au pouvoir des communistes, des organisations mafieuses se sont réfugiées à Hong Kong. Ces organisations, on les appelle les triades. La plus puissante d'entre elles, qui s'appelle Nouvelle Droiture et Paix, aurait plus de 50 000 adhérents à travers la planète. Il semblerait qu'elle ait été mobilisée par le pouvoir exécutif de Hong Kong pour contrer les manifestants, détruisant au passage certaines barricades, agressant plusieurs personnes et commettant des viols sur 3 jeunes filles.
Les manifs pacifiques où l'on triait les déchets pour faire place propre, ça donc, c'est bien loin donc.
Oui, c'est sûr que c'est plus trop la même ambiance. Un mouvement de contre-révolution est aussi en train de se former. Ces anti-manifestants, si on accepte les citoyens chinois eux-mêmes, ce sont des personnes des catégories sociales les plus pauvres, dont les petits commerçants. Oui Antoine, comme en France, quand la SNCF est en grève, les commerçants hongkongais seraient pris en otage. Ils seront sans surprise bientôt rejoints par les plus fortunés, dépendant des échanges commerciaux, qui sont en partie bloqués par les manifestants. Tiens, comme les hommes d'affaires français qui râlent lors des grèves des pilotes d'Air France, les obligeant alors à voyager dans des compagnies low cost. Oui, vous savez bien, ces compagnies où les hôtesses de l'air ne portent pas de jupe mais de pantalon. Horreur ! Bref. Le chemin vers plus de démocratie semble donc bien obstrué pour les militants étudiants qui vont voir leur nombre baisser, principalement à cause de l'installation d'un sentiment de peur et d'une opposition à la révolution de plus en plus forte dans la population. La révolution des parapluies risque donc bien de tomber à l'eau.
Merci Thomas.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
On accueille ce soir Jean-Seb et Paul de l'association Holster Rock. Salut à vous.
Bonsoir.
Une association qui fait la promotion de la musique métal. Vous proposez le vendredi 24 octobre, c'est-à-dire demain, une soirée concert au Terreau Coco. Et le métal, vous connaissez bien, hein, car vous en parlez tous les mardis, depuis mardi dernier, à 23h sur nos ondes, avec l'émission Festival. Vous nous y parlez de la scène métal locale, notamment, et justement, à quoi est-ce qu'elle ressemble à la scène métal angevine, si on devait la définir ?
Eh ben, on peut dire qu'elle est existante. Mais je dirais surtout qu'elle n'est pas exploitée comme elle devrait, et c'est pour ça qu'on a créé l'association Holster Rock il y a trois mois maintenant.
Oui, on va dire ça, trois mois depuis cet été, on va dire.
Et en l'espace de quelques années, on a quand même vu justement d'autres associations et d'autres initiatives se monter à Angers pour donner un petit peu un coup de pouce aux musiques métal et au rock. Il y a par exemple Angers Punk Rock Shows, plus sur le punk pour le coup, ou encore Barbasso. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie du coup de monter une association en plus ? En tout cas, quelle est sa particularité par rapport à ces autres assos ? Est-ce que c'est juste tout simplement parce qu'il n'y en avait pas assez et qu'il en faut plus on est de fous, plus on rit ?
Ouais, bah il y a quand même ce côté-là. Après, il faut pouvoir ne pas oublier qu'on peut quand même s'associer tous ensemble pour essayer de faire plutôt des événements beaucoup plus larges et beaucoup plus grandissants. On peut voir ce côté-là également entre assos, ce qui n'est pas facile de toute façon parce que chacun a son point de vue de ce qu'il veut faire pour plus tard. Mais notre but, là, on ne veut pas faire plus de un concert par mois. Donc il y aura ça tout au long de l'année, donc jusqu'à mai prochain. Et on va plutôt viser la qualité des concerts au lieu de la quantité, tout simplement. On va essayer de faire ça et proposer d'autres services, des soirées en annexe ou des animations.
Et quand vous montez une asso comme ça pour promouvoir la musique métal, est-ce que vous avez rencontré des ennuis, je ne sais pas, au niveau administratif par exemple ?
Pas spécialement, non. Bah, ça se monte comme une association.
Il n'y a pas eu de souci.
Une association des lois de 1901. Basique.
Voilà. Bon, bah ça nous rassure, c'est pour ça qu'on vous posait la question. Demain soir au Terreau Coco, on aura donc le plaisir de découvrir une prog plutôt hétérogène, qui ira du rock plutôt doux jusqu'au métal un peu plus extrême. C'est Dwell, je le prononce bien.
Oui, Dwell.
Dwell, qui ouvre la soirée avec du core and roll, les gars.
Et en fait, ce n'est pas ça du tout. En fait,
moi, je me fie à l'affiche.
Non, qui... on va faire une petite breaking news, ça tombe bien. C'est alors, que l'ordre de passage va changer totalement. Ça sera Azoa en premier, en fait. Donc là, ça a du néo-métal, avec un petit côté théâtral, donc ça va être sympa.
Jean-Seb, qu'est-ce que tu appelles le néo-métal ? Pour les néophytes.
Ah, bon, on en avait parlé lors de la fête.
Dans l'émission Festival, d'ailleurs. On peut en savoir plus, donc mais déjà ce soir, Azoa, en tout cas,
donc, à quoi on peut s'attendre ? Néo-métal, c'est des années 90, c'est un nouveau genre qui va regrouper plusieurs parties du métal, on va dire ça comme ça, Paul. Dans ce sens-là, pour apporter quelque chose de nouveau, en mélangeant, quoi.
En fait, c'est un style qui a beaucoup évolué, voilà. Enfin, qui est parti bon, comme tout le métal, du heavy metal. Et en fait, le néo-métal intègre d'autres instruments, et, enfin, notamment des platines. On retrouve beaucoup de groupes de néo-métal avec des platines. Hein,
avec un DJ sur scène.
Exactement, un DJ, mais d'autres choses. En fait, c'est ça regroupe plein de choses. Et bon, un grand mélange d'instruments.
Pour citer des noms, il y a Korn, Slipknot, et je ne sais plus quoi d'autre.
Il y a Linkin Park.
Il y a tout le petit côté électro.
Il y en a des milliers, et donc Azoa fait donc partie de ce qu'on peut classer dans le néo-métal.
Et par contre, un autre style, c'est le black metal, dont on a aussi entendu parler dans Festival. Le groupe, c'est Selvsmord.
Alors, Selvsmord.
Selvsmord.
C'est très dur à prononcer.
Ouais, voilà, très, très dur à prononcer. Donc là, c'est du black metal. C'est le groupe local, du coup, qu'on a décidé, qui va clôturer cette soirée, en fin de compte. Donc voilà, autant rester dans l'ordre de passage. Et entre les deux, il y aura Dung, Dung et Dwayne, qui viennent de Toulouse.
Dung et Dwayne.
Voilà, Dung et Dwayne, ouais, qui viennent de Toulouse.
Et Toulousain.
Dung, c'est un duo noise rock.
Batterie basse, uniquement.
D'accord, et le noise rock, c'est du rock qui fait du bruit, mais encore.
Voilà, après, il y a beaucoup de rythmique, c'est bien...
Ouais, oui, parce qu'en fait, la basse et la batterie sont des instruments qui sont typés pour la rythmique dans la musique. Et donc là, on va avoir des côtés très, très rythmés et donc très peu de passages que je pourrais dire...
Mélodiques.
Eh bien si, ça va être mélodieux, mais disons qu'on n'aura pas droit à des solos ou autres.
Et c'est ça qui nous avait intéressé pour les faire venir, du coup, et en avant-dernier groupe, Dwayne, pareil, du metalcore, du coup, donc core and roll, ils ont fait des petits jeux de mots, c'est sympa, et qui seront juste avant Svelsmord.
Quitte à se coller des étiquettes, autant inventer ses propres étiquettes, j'ai envie de dire.
Et exactement, voilà. En fait, c'est comme je disais mardi dernier dans Festival, c'est le métal est un style qui évolue tous les jours, et donc c'est pour ça qu'on a tous les jours des nouveaux genres de métal.
Jean-Seb et Paul, est-ce que tout le monde du coup va pouvoir trouver son compte lors de ce concert, étant donné que, comme vous l'avez dit, il y a du rock, mais il y a aussi du métal, et c'est deux publics bon, pas si éloignés, mais peut-être un peu différents aussi.
Bah, toute la base reste métal, c'est sûr. Après, il y a du plus calme, ou plus, on va dire... actif, pour pas être trop vulgaire, voilà, ça va vraiment bien bouger, donc ça va, dans le sens, ça va monter crescendo.
C'est une manière aussi de rendre ça accessible,
à tout le monde,
et de faire découvrir le métal en passant peut-être par quelque chose de plus doux au départ, pour les amener vers des extrêmes.
C'est ça, voilà, histoire de découvrir la totalité, quoi. Tout simplement, le fait d'avoir une date homogène comme celle-là, c'est que ça peut plaire à tout le monde, comme ça, chacun découvre des nouveautés qu'il aurait sûrement pas eu la possibilité d'écouter à l'époque, donc là au moins il y a l'occasion.
Et vous nous disiez que l'association Ulster allait donc organiser un concert par mois jusqu'à mai. Est-ce que vous vous fixez du coup des limites pour les prochains concerts au niveau de la prog, ou est-ce que vous allez continuer un peu à mélanger les genres et...
Ben alors ça va dépendre, parce que en fait le 21 novembre, merci, c'est notre prochaine date donc qui se passera au Colisée. Et en fait là on
fait Colisée Boulevard Foch,
oui, exactement, c'est ça, le bowling.
Le bowling de Colisée. Et donc là on fait on a une prod spéciale folk metal. Donc si je dois expliquer ce que c'est que le folk metal, c'est du metal et en fait avec des influences celtiques, bretonnes, et souvent accompagné d'instruments traditionnels.
D'instruments folkloriques.
Voilà. Exactement. Donc ça sera une date pagan, folk, symphonique.
Dans un bowling.
Voilà. Ça peut être ça. Voilà.
À l'avenir, vous nous en avez déjà un peu parlé en début d'entretien, vous nous disiez pourquoi pas travailler avec d'autres assos, puisque vous êtes plusieurs associations. Est-ce qu'il y a des projets déjà en cours, et est-ce que au-delà de ces soirées-concerts, aussi vous l'avez évoqué un peu, d'autres rendez-vous sont possibles et d'autres concerts sont possibles?
Et alors, il y en aura l'année prochaine, on verra, c'est en cours de travail. Il y aura plusieurs choses qui vont arriver, mais pas que du concert, voilà. On va vraiment aller dans un petit peu tous les genres de soirées sur le thème du métal, pour vraiment changer et casser le rythme uniquement concert, pour attirer plus de monde et un autre public aussi qui peut s'amuser autrement que dans des concerts.
Voilà, mais le truc, c'est aussi Ulster Rock, quand on l'a créé, c'était aussi pour fédérer toutes ces associations qui existaient déjà sur Angers. Et donc la première initiative...
Pourquoi ? Parce que c'était un peu le bordel ?
C'était un peu le bordel, ça se marchait sur les pieds, et donc là, on est toujours en train d'essayer de fédérer tout ce monde-là, et donc par le biais d'événements qu'on fera plus ou moins tous ensemble.
C'est une tâche facile ou...
Non.
Non.
Il y a des caractères dans la scène métal et rock
En fait, c'est pas spécialement dans la scène métal et rock, c'est au sein des assos, il y a des personnes qui sont plus faciles plus facile à parler avec, et d'autres beaucoup moins.
Alors pour l'association Ulster Rock, en tout cas, une question que je vous pose, parce que ça peut aussi... être plus clair pour ceux qui ont aussi envie de monter une asso et de rejoindre ce joyeux bordel que vous allez peut-être fédérer. Comment vous financez ? Comment vous allez faire justement jusqu'à en mai pour pouvoir amener des groupes ? Parce que j'imagine que les groupes, faut les accueillir aussi.
Eh oui, alors là, il y a plusieurs types de paiements. De toute façon, il y a le cachet, le défraiement, hein, tout le monde connaît, ça c'est le B.A.B.A. Après, il y a forcément tout ce qui est subvention, les sponsoring, les partenariats. Ça arrive avec le temps et l'expérience. Forcément, il faut avoir un petit peu de bouteille, donc un concert par mois plus des petites soirées à côté, ça nous fait un petit peu plus de bouteille. Donc oui, ça va avancer. On peut pas tout dire pour l'instant, mais oui, il y aura sûrement des sponsors, des partenariats qui vont arriver d'ici là.
Après, une des choses à faire, c'est essayer de faire des soirées où on met plus en avant les groupes angevins, et donc oui, où notamment on gagne à ne pas faire de défraiement.
Et peut-être aussi que ça peut créer des émulations, et que justement des groupes peuvent se former
suite
à ça.
Voilà. C'est exactement ça.
Et on va aller même plus loin, parce que l'origine du métal aussi, à ce côté-là, c'est le jazz et blues. Donc on va essayer de rentrer dans cette case aussi, et essayer de faire du jazz et du blues.
De créer des mélanges.
Voilà, par exemple Trépalium qui mélange du jazz et du métal, enfin quelque chose comme ça, du blues en même temps. Voilà, aller dans ce genre de système-là, vraiment retourner aux bases. Voilà, éclectique quoi.
Vraiment ouvert en tout cas.
Voilà. Si on est dans un jeune groupe rock ou métal là aujourd'hui qui vient de se former, on peut vous contacter pour pourquoi pas participer à une prochaine soirée, ou en tout cas être guidé dans ce monde, ce vaste monde.
On fait ça tous les jours en fait, voilà. Il y a à peu près tous les jours des groupes qui viennent, qui ont entendu parler de nous via Facebook, via des copains à eux, etc. Ouais. Et donc tous les jours on reçoit des infos enfin, des demandes en tout cas, et on essaye au maximum de caler une date avec ces groupes. C'est pour ça d'ailleurs que demain c'est notre premier concert, mais on a déjà des concerts prévus jusqu'en mai.
Alors, mai, on va dire jusqu'à janvier, parce que mai, voilà, c'est confirmé, mais voilà, on préfère garder la surprise.
Il y a un planning.
On reviendra peut-être pour le signaler, mais...
En tout cas, il y a un planning d'établi, voilà. et on a beaucoup de groupes qui nous demandent.
Et vous n'avez pas peur que ça va être de plus en plus dur de faire la fête tard le soir à Angers cette année ?
Non, les étudiants sont là, c'est bien.
Les étudiants sont là. Bon, très bien. Merci Jean-Seb et Paul. On vous retrouve donc demain soir avec l'association Ulster Rock pour une soirée au Terrococo, où je rappelle qu'à l'affiche, il y aura, je le dis pas dans l'ordre, hein, puisque l'ordre a changé, Dwell du Core and Roll, Dung, un duo rock stoner, Azoa, du Metal Fusion, du New Metal, néo-metal même.
Néo, ouais.
Et Svelsmord.
Alors, Svelsmord. Voilà.
Svelsmord du black metal, tout ça pour la modique somme de 3 euros, rue Beaurepaire. Merci à vous et on vous retrouve tous les mardis dans le festival.
Je voulais préciser qu'il y aura aussi du merchandising.
Et il y aura du merchandising, bien sûr.
On merci
retrouve dans
à vous.
Festival, merci à vous.
Le sous-marin sur Radio Campus Angers.
À l'instant du métal sur Radio Campus Angers, Dwell, District One, qui seront donc à l'affiche demain du Terrococo. Et pour se préparer à cette soirée rock et métal, pour la perme de ce soir, on vous propose d'aller Au Joker's Pub, avec où se tiendra un concert stoner, le groupe s'appelle Icy Sun, ils viennent de Montpellier et débarqueront au 32 rue Saint-Lô pour jouer très fort, on n'en doute pas. On termine cette émission avec la traditionnelle bulle sonore, un moment campusien à écouter ou à réécouter. Hier de 20h à 21h, les geeks de Pas de Panique reprenaient du service avec une nouvelle équipe. L'occasion pour Profit de nous raconter ses vacances, où il fut victime d'une pénurie de jeux vidéo, voilà un extrait.
Et aujourd'hui, on va parler des vacances d'été. Je sais que c'est pas du tout la période pour ça, mais c'est pas grave. Moi, j'aime bien l'été, le soleil, la plage, les soirées. Mais l'été, c'est surtout du temps. Et le fait qu'il fasse très chaud dehors, donc nous, on reste à l'intérieur, on allume notre PC, on s'assoit devant, et on passe nos journées à geeker. Le souci, c'est que quand tu arrives en juin et que tu as fini ton dernier jeu, bah, tu te dis, je vais me faire plaisir, je vais aller m'en acheter un jeu neuf qui vient tout juste de sortir, en allant chez mon revendeur préféré. Donc soit sur Steam, soit j'ai Game Rack ou d'autres vendeurs un peu moins légales. Et là, horreur, tristesse et damnation, tu te rends compte qu'en fait, dans la période juin-août, bah, il n'y a aucun jeu neuf qui sort. Alors aucun jeu neuf, c'est pas aucun, mais c'est en fait très très peu, et la plupart ne sont pas originaux puisque ce sont des remakes. Pour preuve, j'ai même été vérifié et j'ai trouvé des chiffres réalisés par moi-même. Donc ils sont encore pas tout à fait fiables.
À prendre avec des pincettes.
Mais à votre avis, pour les jeux sortis, sortis sur PC durant la période juillet-août, combien est-ce qu'il y en a eu ?
En tout ?
En tout.
Je dirais une vingtaine.
Comme un petit peu plus.
Ouais, une cinquantaine.
Exactement, il y a eu 66 jeux sur la période juillet-août. Et sur la période septembre-octobre, à votre avis, combien on va en sortir ?
Le double.
123.
Ouais, pas mal. Je me suis gavé.
Vous pouvez réécouter Pas de panique en entier sur le www.radiocampusangers.com. Waouh! Dans un instant, dès 20h, vous retrouverez Turbulence, le rendez-vous de la scène locale. Salut Floran.
Salut!
Floran, qui avec Robin donc, est le nouveau duo qui va animer ce rendez-vous. Et vous recevez qui ce soir pour la première?
On reçoit les Cherry Plum. Donc c'est un groupe, voilà, angevin. Normal, la scène locale.
La scène locale, quel genre de groupe?
Ils se définissent comme du pop-folk.
Du pop-folk, que vous aurez en interview et ensuite en session live.
Exactement.
Nous, on se retrouve lundi, dès 19h. Merci à Thomas.
Merci.
Merci encore à Thomas, l'autre Thomas, qui a co-préparé cette émission, et à Manu pour la réalisation, Manu et Audrey. Passez une très bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Angers. Allez, bisous.
Retrouvez le sous-marin en podcast sur le www.radiocampusangers.com.